France Inter, le 18-20.
Le champ de Bruxelles, donc, après la bataille électorale, on l'a bien disséqué dans tous les sens, on sait que le Parlement est bien plus fragmenté qu'il l'était. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la prise de décision, pour en reparler. Plus de populistes, c'est vrai, mais éclaté. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Plus de verts aussi. On l'a déjà beaucoup dit et ça compte. Un groupe centriste qui sera très français. Qui seront les faiseurs de rois? Est-ce que les choses sont plus ouvertes? Donc, peut-être plus intéressantes. Que disent-ils ces résultats? Qu'est-ce que vous en dites surtout? Qu'est-ce qui vous interroge encore? Qu'est-ce qui va émerger selon vous? Parlons-en ensemble. On poursuit la conversation que nous avons eue tout à l'heure depuis 18h. Mais bienvenue, évidemment, si vous venez d'arriver, il y a de la place pour tout le monde. On est parti.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
André, vous êtes dans la place, comme on dit, vous nous appelez de Strasbourg. Soyez le bienvenu, André, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, André.
Tout simplement, vous disiez qu'attendez-vous de ce Parlement? Eh bien, moi, c'est très simple. Pour les 5 ans qui viennent, j'attends 4 lettres, R-I-E-N, rien. Parce que quand un Parlement est aussi fragmenté, les décisions qui seront prises ne pourront résulter que de compromis. Et des compromis, des fois, ça tourne aussi à la compromission. Autrement dit, ce seront des décisions mi-chèvre, mi-chou. Bien sûr, il y aura des agences de communication qui seront là pour bien les présenter, pour dire « voyez le formidable progrès ». Si ce n'est que pour une loi qui sera peut-être un peu progressiste, il y en aura une autre qui aura enclenché la marche arrière. Donc moi, c'est simple. Dans les 5, j'aime qu'un Parlement ait une majorité claire, ou au moins à peu près claire. Or là, il y a 5 groupes importants, ou même 6 peut-être, et donc il n'y aura jamais une majorité réelle, et uniquement des arrangements qui moi, me semblent tout à fait pitoyables, et surtout qui ont gros défauts, qui déforment l'image de l'Europe, parce que plus une assemblée fait des arrangements entre ses différentes composantes, plus l'image de l'Europe se délite et devient délétère.
Mais André, est-ce que vous aviez le sentiment, vous, que ça marchait mieux ces 5 dernières années, au fond?
Ah non,
avec
ces 5 dernières années,
voilà,
ça ne marchait pas mieux.
D'accord.
Du tout. Moi, je remonte à une quinzaine d'années en arrière où il y avait une majorité claire et une minorité de l'autre côté. On savait qui était gris et clair et qui était gris foncé. Donc là, dans la dernière, non, pas du tout, et surtout pas avec le président Juncker qui était certainement pas l'homme de la situation.
Voilà, on verra bien ce qui se passera de ce côté-là aussi, on aura peut-être occasion d'en parler. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, André, qui vient de Strasbourg, qui sait donc exactement de quoi il parle, puisqu'il est dans la place pour discuter ensemble jusqu'à 20h, répondre à vos questions, vos interrogations. Jean-Yves Camus nous a rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, Sylvain Canet est revenu et resté toujours prof à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Yaël Gauze est la chef du service politique de France Inter.
Bonsoir,
et puis,
Fabienne.
Angélique Boin, correspondante à Bruxelles, est aussi dans les tuyaux avec nous pour intervenir quand elle le souhaitera. Je vais commencer avec vous, Sylvain Kahn. On en parlait peut-être un petit peu aussi en première heure. Plus éclaté, ça veut dire plus compliqué, réellement, ou forcément, ou pas?
Ben, plus éclaté. Faut voir quels critères on prend, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que dans le Parlement sortant, il y a 8 eurogroupes parlementaires. Est-ce que c'est plus éclaté que dans le Parlement qui vient d'être élu, où il risque d'y en avoir plutôt 7 que 8? Je ne sais pas. Quand on a parlé de fragmentation, en fait, on fait souvent référence à la chose suivante. Traditionnellement, depuis 1979, il y avait 2 grands groupes, pour aller vite, les socialistes et les conservateurs démocrates chrétiens, qui, quand il le fallait, pouvaient à eux deux s'entendre, puisqu'ils avaient plus de 50% des sièges. Ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que ça va faire de la fragmentation? Moi, je crois plutôt que ça va faire davantage d'équilibre, davantage de discussion, davantage de majorité d'idées, que ça va mieux refléter l'état de la société européenne et de notre diversité politique. Parce que finalement, 8 grands groupes, 8 grandes familles politiques, c'est pas si fragmenté que ça. Et puis, nos amis belges, hollandais, voire allemands, ou finlandais ont l'habitude, contrairement à nous, hein, j'entendais ce que disait André, c'est vrai qu'André, effectivement, si j'ose dire, il parlait vraiment avec en tête la grille de lecture de la 5e République.
La culture du compromis, c'est une culture très, très, très Bruxelles, très Strasbourg, très européenne. Jean-Yves Camus, c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que ça va fonctionner mieux, selon vous, avec cette fragmentation? Ou au contraire, vous vous dites pas tellement, en fait?
Non, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ça marche plus mal. D'abord, il n'y a aucun texte et aucune idée qui permette de soutenir que tout marche mieux quand c'est bipolaire. Voilà. Ensuite, c'est vrai que plusieurs pays européens, on est même plutôt l'exception d'ailleurs qui confirme la règle, ont une expérience, alors des fois poussée un peu loin, hein, il est vrai, des gouvernements de coalition qu'on juge, nous, au minimum hétéroclite, voire des fois un petit peu surréaliste, mais ça fait partie du paysage. Ça fait partie du paysage néerlandais, du paysage belge, de tous les paysages politiques scandinaves, d'un certain nombre de paysages politiques d'Europe centrale et orientale, parce que vous avez par exemple le cas extraordinaire de Monsieur Babiš, qui est le Premier ministre tchèque, qui actuellement est affilié au groupe ALDE. Il est censé être libéral pro-européen. Manque de chance. Il est eurosceptique, il est libéral parce que c'est par ailleurs un homme d'affaires et qu'il applique au gouvernement les techniques qui lui ont réussi dans le privé, mais il y a une déconnexion complète entre son appartenance à un groupe et sa pratique gouvernementale. Donc, à un moment donné, peut-être que la clarification est utile.
Et la police le met en accusation d'ailleurs en ce moment pour détournement de fonds européens. Hein.
Tout à fait.
D'ailleurs, on va rejoindre Angélique dans un instant. Jean-Yves Camus, sur cet éclatement-là, est-ce qu'au fond du coup, et à la lumière de ce que vous dites, l'éclatement des droites et des extrêmes en fait, qui ne se retrouvent pas vraisemblablement dans le même groupe, des extrêmes droites, est-ce qu'au fond, ça change quelque chose ou pas dans leur poids et dans leur influence ?
Mais ce qui change, c'est que quand on regarde le camembert du nouveau Parlement européen, on voit que la droite conservatrice, on va dire mainstream, rassemble 174 élus, et que si on fait le compte de la droite nationaliste et souverainiste, et qu'on y additionne les partis qu'on appelle d'extrême droite, on arrive très exactement à 2 sièges de moins, 172. C'est là, à mon avis, l'enseignement majeur de ce scrutin, c'est que la droite mainstream, la droite conservatrice traditionnelle, est poussée dans ses retranchements, elle subit des revers qui sont très sérieux. Le cas français est évidemment paroxystique, mais on ne peut pas dire non plus que la chancelière Merkel a été confirmée par l'élection d'hier. Theresa May, on le sait, a démissionné. Ce midi, le chancelier Sébastien Kurz, le Wonder Boy de la politique autrichienne, s'est retrouvé mis en minorité au Parlement. Et les conservateurs espagnols du Parti Populaire ne sont pas non plus dans une forme resplendissante, même s'ils prennent la mairie de Madrid. Donc, je crois, moi, qu'un des enseignements majeurs de ce scrutin, c'est précisément qu'aujourd'hui, il y a dans le grand champ des droites européennes une compétition qui est plus une compétition avec quelqu'un qui court derrière pour essayer de rattraper le peloton, mais véritablement un coude à coude. Et l'avenir dira laquelle de ces deux familles réussira à prendre le leadership. Mais attention, pour la droite conservatrice traditionnelle, il y a danger. Il ne faut pas qu'elle s'imagine que de plein droit historique quasiment naturel, elle gardera ce leadership des droites européennes. C'est tout sauf jouer.
Je vous ai entendu réagir, Yael. Je voudrais qu'on aille à Bruxelles faire un petit aller-retour avant de rejoindre Angélique Boin. Bonsoir Angélique.
Oui, bonsoir.
Je vous entendais réagir de l'autre côté, de votre côté bruxellois.
Oui, simplement sur ce processus législatif. Rappelons juste que ces projets de loi qu'on appelle directives ou règlements ici, hein, qui sont proposés par la Commission, en fait, sont aussi, je dirais, il y a un co-législateur qui est le Conseil. Il faut le rappeler, ça se passe pas qu'au Parlement avec ce système de compromis compliqué. On l'a dit, souvent long, très particulier. Il y a aussi le Conseil, l'instance qui réunit les ministres des 28 États par domaine de compétences, qui interviennent. Il y a un système d'aller et retour des textes. Et puis ces dernières années, on a de plus en plus utiliser le système du trilogue, hein, c'est un nom un peu barbare, mais c'est des réunions tripartites avec les représentants des États, de la Commission et du Parlement. Et ces dernières années, on a été plus vite quand même pour, je dirais, voter ces règlements et ces directives. On a été plus efficace, moins transparent sans doute sur la position des États, mais plus efficace que sous l'ancienne mandature.
Merci beaucoup Angélique. Et Jean-Yves Camus, vous parliez tout à l'heure de la droite traditionnelle et de ce qu'elle peut devenir dans ce Parlement. C'est le sens de la question de Laurent. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Moi, la question que je me pose depuis hier soir, j'entends pas beaucoup. Je me demande comment les Républicains peuvent envisager de continuer avec le même leader, parce que les résultats, moins de 9%, ça semble montrer un mauvais choix. Ça me paraît tellement évident. Et M. Christian Jacob, qui a parlé il y a pas longtemps, a l'air de dire que c'était pas un problème, qu'on pouvait rester avec le même leader. Bon, moi, je pense que pour le centre républicain, c'est pas terrible. Je comprends pas ce qui se passe.
Merci beaucoup, Laurent. Bah, Yael Gauss va essayer de vous éclairer. Tiens, Yael, je vous la livre comme ça. Il y a une autre question de Jean-Pierre d'Annecy, un peu dans les mêmes eaux, qui demande comment les républicains vont, si les républicains vont disparaître dans l'espace entre Macron et Le Pen. D'abord, sur le changement de leader. Est-ce que c'est dans l'air ou pas?
Ça se passe en ce moment.
Il y a une explication de texte.
En ce moment, il y a une explication de texte, bureau politique des républicains. Républicains réunis en urgence ce soir à la demande de Laurent Wauquiez lui-même, qui demande du temps pour voir tout le monde, consulter tout le monde, ouvrir des états généraux de la droite à la rentrée. Il gagne du temps, Laurent Wauquiez, mais c'est vrai que régulièrement, on a vu une droite qui se référait souvent à un homme providentiel. Et quand ça va pas, quand le sauveur n'est plus là, on en change. Jean-François Copé est parti, a quitté, suite à l'affaire de Guimalion, son poste, alors qu'il avait fait plus de 20% aux élections européennes de 2014. Donc il comprend pas très bien pourquoi aujourd'hui Laurent Wauquiez, qui lui succède aux mêmes fonctions, ne part pas quand son parti s'effondre à 8%. Donc on est vraiment là à la croisée des chemins. C'est vrai.
Sait ce qui se passe en ce moment.
Éric Woerth.
Si on est sous la table, on entend quoi?
Éric Woerth, c'est même pas sous la table. A dit clairement à Laurent Wauquiez, tu crois que tu es la meilleure personne aujourd'hui pour rassembler la famille? Voilà, le procès a commencé parce que François-Xavier Bellamy, le problème, c'est qu'il avait mis tout le monde d'accord. On se souvient d'un grand meeting porte-maillot il y a une dizaine de jours à Paris où toute la droite et le centre d'Hervé Morin étaient unis derrière cette nouvelle figure, ce philosophe qui allait provoquer, soi-disant, un effet boomerang, en fait, pour tout le monde. Parce que Laurent Wauquiez a mis cette personne en orbite, évidemment, pour la campagne, mais tout le monde l'a accepté ensuite derrière et tout le monde s'est dit que c'était la bonne personne. Donc évidemment, comme le Parti Socialiste il y a deux ans, les LR sont confrontés à la même équation.
Jean-Yves Camus là-dessus, puis on retournera au standard dans un instant.
On peut d'abord regretter pour la qualité du débat politique et pour la hauteur du débat politique que quelqu'un dont on peut contester les options, mais qui de toute évidence est un homme d'idées et qui a essayé d'élever le débat, soit désavoué par les électeurs. Ceci étant, c'est sa propre famille politique. Voilà, le choix est fait. Je crois que la droite conservatrice française est totalement prisonnière de cette culture de l'homme providentiel. Mmh. Elle n'arrive véritablement pas à s'en sortir. Et d'ailleurs, on a vu à quel point elle était déboussolée par la défaite de Nicolas Sarkozy, parce que celui qu'elle considérait véritablement comme... Le sauveur, celui qui avait réussi à le mener au pinacle, une fois qu'il était parti, on avait l'impression d'un parti d'orphelins. Voilà, ce qui est tout de même pas très mature politiquement, si vous voulez. Laurent Wauquiez a dit hier soir qu'il comptait d'ici 3 ans, donc d'ici la présidentielle de 2022, reconstruire un parti suffisamment fort pour être une alternative à la politique du président de la République et, je cite, au chaos du Rassemblement National. Il y a énormément de travail à faire parce qu'on va regarder la matrice de transfert de voix. Mmh. On va voir combien d'électeurs de François Fillon en 2017 sont partis hier au Rassemblement National et on aura l'année prochaine, lors des élections municipales, dans les territoires, des élections qui peuvent confirmer cette tendance, notamment dans les villes qui sont actuellement administrées par la gauche, où il est possible, d'ailleurs l'aventure du Front National a commencé comme ça, 1983 à Dreux, que des électeurs de droite se disent « bon, qu'est-ce qu'on fait? On a un sortant de gauche, on veut le sortir, eh bien on va à l'Union ».
Est-ce que j'ai lu quelque part, où je me trompe, que les électeurs de François Fillon, un quart d'entre eux étaient de toute façon partis pour La République En Marche? Là, pour le coup, on ne parle pas du Rassemblement National, mais un quart d'entre eux de toute façon.
Ce sont ces transferts, et moi j'ai un exemple, bon, je le répète depuis ce matin, mais il est absolument édifiant. Le 16e arrondissement de Paris, la droite Trocadéro, fustigée par Édouard Philippe, c'était 58% pour François Fillon au premier tour en 2017. Aujourd'hui, c'est 46% pour La République En Marche et seulement 24% pour Les Républicains. Vous avez là complètement des vases communicants massifs de LR classiques vers La République En Marche, dans un arrondissement sociologiquement qui n'était pas du tout celui des marcheurs.
Allez, je voudrais qu'on retourne au standard, au 01 45 24 7000. Retrouvez Guy. Bonsoir Guy.
Oui, revenons à des questions européennes et pas de politique.
Voilà, c'est pour ça que vous êtes là, Guy. Je vous en prie, allez-y.
Voilà. Donc moi, j'ai deux questions très simples. Comment faire en sorte pour que les élections soient constituées de listes transnationales, ce qui éviterait les votes sanctions vis-à-vis des pouvoirs en place. On a bien vu que la campagne est toujours polluée et pourrie par ça. Mm-hmm. Et la deuxième question, comment mettre fin au vote à l'unanimité au profit d'un vote majoritaire, car à 27, on sait que c'est ingouvernable.
Merci beaucoup Guy pour ces questions, nous avoir ramenés entre Bruxelles et Strasbourg. Sylvain Kahn, d'abord sur les listes transnationales, on en a beaucoup parlé, il y a même eu une tentative qui venait d'Emmanuel Macron si je ne m'abuse, et puis finalement non.
Oui, on en parle beaucoup et en fait
on en parle à chaque fois.
Oui, on en parle à chaque fois et ça me paraît un bon exemple, on va dire, de la résistance des États dans le cadre de la construction européenne, c'est-à-dire que les États sont à la fois des acteurs incontournables, essentiels de la construction européenne. On peut même dire que c'est eux qui, au départ, ont pris la décision dans les années 50 de mutualiser des pans de souveraineté. Hein, et en même temps, effectivement, ils ont un peu tendance à résister pour des raisons qu'on pourrait appeler d'un certain corporatisme politique. Voilà, après tout, vous êtes un leader politique national, vous avez fondé votre légitimité, votre parcours et vos ressources et votre richesse sur des partis nationaux. Bah évidemment, si vous faites qu'il y a des élections avec des listes transnationales, d'une certaine manière, vous sabordez, on va dire, le tas d'or sur lequel vous êtes assis ou votre légitimité supposée. Donc, on voit bien que tous les 5 ans, il y a des débats et finalement il y a une espèce de résistance des États. Et dans le pays des Européens, le livre que vous citiez tout à l'heure qu'on a écrit avec Jacques Lévy, nous on propose carrément de dire que dans ce conseil qui a été rappelé par Angélique Bouin, c'est-à-dire la chambre des États, qui est comme une chambre haute finalement, comme un Sénat, ça irait sans doute mieux si on élisait les représentants des États dans cette chambre haute au suffrage universel direct, plutôt que d'avoir des présidents ou des chefs de gouvernement ou des ministres qui ont à la fois la casquette de dirigeants de leur État et en même temps de partie prenante de l'intérêt général européen. Voilà, finalement, aux États-Unis ou au Brésil, eh bien, les gouverneurs qui, enfin, il y a les gouverneurs dans les États, et puis les gens qui sont envoyés au Sénat américain ou au Sénat brésilien, ils sont distincts. On n'en voit pas les présidents des États fédérés siéger à Washington. Eh bien, peut-être que ça serait une manière de permettre de faire plaisir à Guy. C'est-à-dire que si on passait par ce biais-là, sans doute que dans 5 ou dans 10 ans, on aurait beaucoup plus facilement des listes transnationales.
Alors, est-ce qu'on voterait, cela dit, on a beaucoup parlé d'abstention, il se trouve que cette fois-ci, les chiffres nous ont fait mentir, mais voilà. Est-ce qu'on voterait, j'entends d'ici, mais comment je vote pour des gens que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, en fait? Oui. Comment on fait pour que ces listes-là, Yael Gauz, aient du sens auprès des gens?
C'est quand même la clé, parce qu'aujourd'hui, on a un espace politique européen, mais des opinions publiques toujours nationales. C'est l'éternelle contradiction que soulevait Jürgen Habermas sur l'absence d'espace d'opinion publique européen. C'est la clé, ces votes de liste transnationales, parce que ça obligerait pour chaque média national à intégrer justement ces figures venues d'autres pays avec d'autres problématiques. Ça intégrerait, ça forcerait finalement le regard à regarder à 28, à 27 et pas dans un seul pays.
Jean-Yves Camus, puis j'oublie pas la dernière partie de question de Guy sur le vote à l'unanimité. Allez-y.
Opinion publique européenne. Ouais. Moi, je pose une question triviale, bête, de béotien. J'ai un abonnement qui me permet de recevoir des chaînes câblées. Combien de chaînes des 28 pays de l'Union européenne est-ce que je peux recevoir sur mon bouquet de base? La réponse doit être 3 ou 4. Comment voulez-vous que je me forge une opinion européenne? Si je veux regarder, si je voulais hier soir, regarder sur mon bouquet les résultats des élections belges, ça se passe à 300 km d'ici, hein. C'est la même langue pour une partie du pays. Je ne le peux pas. Donc, l'émergence d'une opinion publique européenne, tant que nous n'aurons pas accès à un espace d'information qui nous permettra de connaître un petit peu...
Oui, mais ça passe par les règles du jeu. Ça passe par les règles du jeu électoral aussi.
Enfin là, ça passe beaucoup par les règles du jeu économique de l'opérateur.
Oui, mais moi je crois que... Comment dire? Dans une certaine mesure, ça existe déjà, cet espace transnational. C'est-à-dire, de toute manière, il y aura toujours, dans l'état actuel des choses, 24 langues. Et puis, s'il y a d'autres élargissements, il y aura encore plus de langues. Donc, à partir de là, on sait quand même... Comment dire? Il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir une espèce d'homogénéité de l'espace public pour être conscient qu'on est interdépendant et qu'il y a des gens dont on se sent plus proche politiquement ou socialement ou idéologiquement dans d'autres pays que le nôtre, parce que précisément on partage un cadre commun. Donc moi, il me semble, par rapport à ce que vous disiez à Yael Gauz en citant Habermas, il me semble que l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que et ces élections, je pense, le montrent, on est de plus en plus dans une convergence des enjeux nationaux et des enjeux européens. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les partis politiques qui ont le plus bénéficié du surcroît de participation sont ceux pour qui c'est absolument clair que les choses qui se décident au niveau national sont des enjeux européens. On a bien vu comment un certain nombre de partis, ceux dont Jean-Yves Camus parlait tout à l'heure, les partis de la droite radicale et extrême, font campagne sur un âge d'or mythique et révolu en disant « nous allons nous protéger et vous protéger, vous tous les Européens, des menaces extérieures ». Et puis de l'autre côté, nous protéger à l'échelle de l'Europe. Et puis de l'autre côté, vous aviez des partis plutôt comme les Verts ou les libéraux-démocrates, les progressistes, qui disaient nous pensons que nous avons des défis qui sont communs à nous tous et qu'on doit résoudre avec le reste de l'humanité parce que ils sont également concernés. Et donc du coup, finalement, ce sont ces deux types de forces qui montent, qui correspondent au vote des jeunes, tandis que les forces plus classiques et plus traditionnelles, qui par ailleurs sont assez divisées depuis 50 ans entre pro-européens et souverainistes, qui continuent de s'éroder et même de s'affaisser. Chacune des deux perd 5 points dans sa proportion de sièges au Parlement européen, c'est énorme.
Il y a un débat sur l'unanimité ou pas, que suggérait Guy ?
Au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne, le débat, il existe depuis les débuts de la construction européenne. D'abord, il faut bien voir
sauf qu'on n'était pas 28 au début de la construction européenne.
Oui, mais pourtant, le même débat existait déjà, si vous voulez. C'est-à-dire, alors, oui, là, j'entends bien. Ce que Guy disait, c'était que selon lui, on était trop nombreux pour et d'une certaine manière trop divers pour réussir à décider, et que donc, par conséquent, il fallait. Mais toutes les études
pouvoir passer des accords à deux, à trois, c'est ça qu'il dit de fait.
Oui,
en fait,
mais
qui...
ça existe déjà en réalité. Je veux dire, c'est non seulement c'est prévu par les textes, mais ça se fait déjà. C'est ce qu'on appelle la coopération. J'ai oublié le nom exact.
Je peux pas
la coopération renforcée.
Ah, voilà.
Bon, l'euro, c'est déjà une géométrie variable. Schengen, c'est une géométrie variable. Donc, en fait, je crois que ce dont parle Guy, ça existe déjà et que l'unanimité, elle ne cesse de se réduire. Le nombre de domaines qui sont à l'unanimité aujourd'hui, il reste un domaine très très important qui est la fiscalité. Mais sinon, sur quasiment tout le reste, maintenant, ça se fait à la majorité qualifiée au Conseil et à la majorité simple au Parlement européen.
Jean-François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Jean-François.
Ben, merci. Je voulais juste demander, le fait qu'il y ait un nombre croissant d'élus eurosceptiques, qu'est-ce que ça va pouvoir influencer sur le déclin est-ce que ça va influencer le déclin de l'Europe telle qu'elle est? Ou autrement dit, d'une autre façon, est-ce que le fait d'être élu européen en tant qu'eurosceptique, c'est pas un peu contradictoire et qu'est-ce que ça va amener?
Alors, on va répondre à cette question tout de suite. Jean-François, merci beaucoup. Jean-Yves Camus, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif, eurosceptique et en même temps élu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une question subsidiaire de Jean Darras qui dit comment les députés dits populistes vont-ils pouvoir agir pour que l'Europe accueille par exemple moins de migrants en Italie? C'est quand même ce qu'ils ont réussi à faire. Donc d'abord sur comment ça marche avec autant d'eurosceptiques aujourd'hui dans ce camembert.
Alors, il y a effectivement une première contradiction, c'est que les partis dits eurosceptiques ou nationaux populistes passent leur temps à nous expliquer qu'au fond le Parlement ne sert à rien parce que les décisions se prennent ailleurs et que ils nous expliquent en même temps qu'ils veulent être de plus en plus nombreux au Parlement européen pour pouvoir grosso modo subvertir la chose de l'intérieur et changer la construction européenne, lui faire changer de cap. Il y a deux solutions, ou c'est le Parlement qui décide, et on peut effectivement faire bouger la machine et lui faire changer de cap, ou bien alors ça n'est pas lui qui décide, et dans les cas comme ça, être de plus en plus nombreux au Parlement européen ne fait pas beaucoup bouger le curseur. Donc ça, c'est la première faute logique. Il y a en même temps, je crois, chez ces partis, notamment chez les plus radicaux, une notion qui est intéressante, parce qu'on a toujours l'impression que les partis dits d'extrême droite ou de droite radicale sont des partisans de l'ordre. Mais ils ont une idée de la subversion. Il y a quelque chose qui est très présent chez eux, c'est que partout où on va, quand on est minoritaire, on a la possibilité de subvertir la structure. Et qu'on va se servir précisément du Parlement européen, non seulement comme d'une caisse de résonance pour faire passer ses idées, et c'est vrai qu'on l'a fait, on les fait mieux passer quand on est 150 que quand on est 37, mais en même temps qu'on va réussir, parce qu'on a une force de persuasion, une force de nuisance, un vrai logiciel idéologique, etc., à faire tourner la machine contre son gré pour ses propres intérêts. Je pense que c'est pas possible, mais c'est en tout cas la conviction qu'ils ont. Moi, je crois qu'il y a un choix absolument essentiel. C'est ou l'Europe des pères fondateurs, ou bien alors, effectivement, l'Europe des nationaux populistes. Donc, à un moment donné, ce que les nationaux populistes veulent, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'état d'esprit originaire des fondateurs de l'Union européenne. Il y a une pente naturelle vers davantage de transnationalité, davantage de transfert de souveraineté. Il y a deux projets qui s'entrechoquent. Et s'il y a peut-être quelque chose de bon dans le débat qui s'est instauré à l'initiative du président de la République dès la rentrée dernière, c'est que précisément, à un moment donné, le choix est clair. Effectivement, c'est les populistes eurosceptiques contre les libéraux pro-européens. On ne sort pas de ça.
Mais ça donne des choses assez étranges après quand on regarde et qu'on fact-check les votes de ces eurodéputés. Je pense à la mandature précédente pour les députés du Rassemblement National. Vous dites qu'ils sont à l'intérieur un peu comme un cheval de Troie, quelque part, pour essayer de renverser la structure de l'intérieur, mais pas dans l'intérêt français. Régulièrement, ça va à l'encontre. Quand le Parlement européen vote pour renforcer les gardes-frontières aux frontières extérieures de l'Union, il vote contre. Par exemple, lorsqu'on parle de bien-être animal, le transport d'animaux, il vote contre. Donc il y a une dichotomie fabuleuse entre le vote du groupe RN dans la mandature précédente et les réalités franco-françaises.
Angélique Bouin, je ne vous ai pas oublié à Bruxelles. Angélique, je vous écoute.
Oui, précisons par exemple, si on observe le fonctionnement du groupe Rassemblement National ces 5 dernières années, ce qui est important, c'est comme ils avaient réussi à se regrouper, justement, ils ont quand même accès à des moyens financiers, à du temps de parole, ce qui est quand même extrêmement important. Donc il y a une utilisation, et on l'a observé ces 5 dernières années, de Strasbourg comme caisse de résonance pour des politiques nationales et pour, je dirais, certains observateurs disent alimentaires pour pouvoir évidemment financer le parti. En tout cas, c'est observé comme tel par les autres groupes ici. Il y a l'influence et il y a un truc qui est important. Par exemple, le nombre de rapports parlementaires qui est signé par ce type de groupe montre s'il y a eu un travail effectif. Ils en ont eu que 5 à le Rassemblement National contre plusieurs dizaines pour d'autres groupes qui parfois sont plus petits, hein, comme les Italiens des 5 étoiles. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment l'utilisation de ce Parlement pour des politiques nationales. La question qui va se poser, c'est la suite. Marine Le Pen, elle dit que là, cette fois-ci, elle veut vraiment avec son groupe réformer de l'intérieur, donc quels seront les leviers? Eh bien, ça dépend de la constitution des groupes qui vont vraiment se faire dans les prochaines semaines aussi. Est-ce qu'ils réussiront à faire une coalition globale comme le veut Salvini, ou est-ce que ça va être encore morcelé, cette extrême droite, parce qu'il y a vraiment des oppositions de fond sur des sujets majeurs comme le rapport avec les Russes? C'est une des vraies questions pour voir leur poids futur.
Sylvain Cana, merci Angélique.
Il me semble que là-dessus, disons l'avant-garde, c'est Viktor Orban, hein, puisque Viktor Orban a à la fois un agenda politique qu'on pourrait vraiment qualifier.
C'est la question de savoir qui était le patron en fait de ces gens-là, si c'était lui, si c'était Salvini.
C'est-à-dire, on voit bien, il a été élu, il a gagné 3 élections de rang depuis 2010, et il proclame lui-même en 2014 qu'il est pour une démocratie dite illibéral, c'est-à-dire que pour lui, le respect de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, des droits universels, de la politique européenne d'asile, tout ça, c'est des choses très très relatives, y compris l'indépendance de la presse et le pluralisme. Bon, à partir de là, effectivement, il a toujours dit, mais il n'est pas question qu'on sorte de l'UE. Pour autant, voilà. Et c'est lui, en fait, qui, me semble-t-il, est vraiment, sinon le premier, en tout cas l'un des tout premiers, surtout avec un poste de Premier ministre, à faire prendre progressivement à ceux qu'on appelait avant les europhobes et les eurosceptiques, cette espèce de tournant qui fait qu'aujourd'hui, ils disent, bah, l'UE, tu ne l'aimes pas, mais tu la transformes de l'intérieur sans la quitter, au profit d'un agenda qui est leur agenda politique traditionnel, au motif que les nations européennes doivent finalement converger dans un nationalisme européen contre l'extérieur.
Jean-Yves Camus.
Viktor Orban est effectivement celui qui a sans doute, par le terme de démocratie libérale qu'il a utilisé, donné le ton le plus juste du projet qu'il porte. Il a ce désavantage, pour prendre la tête d'une coalition de gens qui pensent à peu près la même chose que lui, d'abord d'être réaliste parce qu'il est Premier ministre d'un pays, la Hongrie, qui ne peut pas sortir de l'Union européenne sans tomber en capilotade, et ensuite il a le désavantage d'être hongrois, c'est-à-dire d'être finalement le chef d'un petit pays qui est linguistiquement isolé, culturellement spécifique, et qui ne peut pas prétendre à avoir la même voix en Europe qu'à Matteo Salvini, qui d'une certaine manière est un peu gonflé dans son importance par le statut économique, politique, historique du pays dont il est le représentant.
Viktor Orban a l'avantage des représentants de faire ça au sein du PPE.
C'est exactement la question que j'allais poser, c'est pour ça qu'il veut y rester.
D'être
d'ailleurs
une espèce de cheval de Troie de la droite radicale et extrême, nationaliste, populiste. Et d'ailleurs, du coup, Salvini, quand il était en campagne, allait lui rendre visite. Et Salvini, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, ne cesse d'avoir et d'afficher de très bonnes relations avec lui. Le 2 mai dernier, il a rendu visite en Hongrie, il a pris un avion, il a atterri à Budapest, il a sauté dans un hélicoptère. Cet hélicoptère l'a emmené au sud de la Hongrie, à la frontière avec la Serbie, qui est devenue une frontière très durcie, militarisée, avec des barbelés et des grillages. Ils se sont retrouvés là tous les deux en grande conversation, d'un air très sérieux, pour dire « Regardez, nous faisons voler en éclats la politique européenne d'asile. »
Sauf que dans le même temps, il n'était pas à la grande réunion organisée à Milan par Salvini, et trois jours avant, Orban était aux États-Unis en revanche, Jean-Yves Camus.
Il n'était pas à la réunion de Milan pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est un homme de formation anglo-saxonne, en l'occurrence la Grande-Bretagne, du temps où il était un dissident libéral du régime communiste, et à qui M. Soros a permis d'aller faire des études en Grande-Bretagne, et ensuite parce qu'il a l'impression, lui, mais de bonne foi, qu'il est resté un démocrate chrétien, et que c'est la démocratie chrétienne ouest-européenne qui a trahi ses fondamentaux. Donc, il n'est pas historiquement un homme d'extrême droite. Si vous voulez trouver l'extrême droite hongroise, vous l'avez. Ce sont les dissidents de Jobbik qui ont formé ce petit parti désormais marginal, qui reste celui d'un nationalisme hongrois hyper agressif, raciste envers les Roms, antisémite de manière assez assumée.
Ce qu'est aussi Viktor Orban.
Ce qu'il est, il faut faire attention à ça. Viktor Orban a utilisé un discours qui est ambigu, mais quand on regarde de près la manière dont il a traité la communauté juive de Hongrie, elle est très divisée sur la question. Il y a ceux qui regardent les principes et qui disent, au nom des principes, nous ne voulons pas traiter avec quelqu'un qui promeut la démocratie libérale. Mais il n'a jamais eu un comportement discriminatoire vis-à-vis de la communauté juive de Hongrie. Ça, envers les Roms, c'est malheureusement autre chose. C'est-à-dire que d'abord, la culpabilité historique n'est pas la même. Ensuite, les enjeux ne sont pas les mêmes, notamment sur la question des restitutions. Et puis enfin, le racisme anti-Rome, il est malheureusement omniprésent à l'Est. Et il n'est pas l'apanage de la droite extrême. Parlez-en aux soi-disant sociodémocrates slovaques ou roumains qui ne traitent pas nécessairement mieux les Roms de leur pays respectif que Monsieur Orban.
Pardon, Sacha, vous nous attendez depuis 24 minutes, excusez-moi. Allez-y, Sacha.
Oui, bonsoir.
Allez-y. Merci.
J'ai pas mal suivi les résultats. J'ai vu que Europe Écologie Les Verts avait fait de bons résultats, c'est bien. Et en fait, d'une discussion avec un ami est venue une réflexion, et une question que je vais vous poser, en fait, où j'ai la sensation qu'est sous-estimé le vote plaisir plutôt que le vote utile. La réflexion, elle était, les élections européennes, elles vont pas avoir un impact majeur sur ma vie au quotidien, je vais pas le ressentir comme je ressentirais des municipales, des législatives ou des présidentielles.
Donc je vote plaisir, en fait.
Donc je me fais plaisir, quitte à voter très folklorique ou voter pour les Verts, qui n'est pas folklorique. Je pensais plus aux listes qui ont fait moins de 0,5%.
Ouais.
Et en gros, est-ce que vous n'avez pas finalement la sensation que tous les débats se dire ben, tel parti a fait un très faible résultat, etc., qu'à l'arrivée, ça soit très peu révélateur de ce que les électeurs voteront au national, et que finalement, ça changera rien à notre quotidien.
Merci Sacha. Sylvain Kahn là-dessus, c'est intéressant ce qu'il dit Sacha, parce qu'au fond, effectivement, c'est l'antithèse du vote utile. Donc du coup, une espèce d'éparpillement vers beaucoup de choses, mais précisément parce qu'il n'y a qu'un tour, et que
voter en fonction de ses convictions et des valeurs auxquelles on adhère.
Donc, si c'est ça le vote plaisir, après tout, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Et sans... Moi, ce qui me frappe beaucoup, encore une fois, dans le vote vert en particulier, c'est que au nom d'une inquiétude, celle du changement climatique, il y a un espoir dans l'avenir. Voilà. Tandis que dans le vote pour les nationalistes, au nom d'un mythe, d'un âge d'or à retrouver, même si cet âge d'or n'a jamais existé, eh bien, on vote pour la fermeture. Mais finalement, dans les deux cas, me semble-t-il, on est animé par une envie d'avenir et un espoir finalement. Et donc peut-être que...
Et peut-être une envie d'Europe cette fois. Donc moi je suis de nature optimiste, mais peut-être une envie d'Europe là avec des taux de participation.
Il n'y a plus grand monde qui veut sortir de l'Europe. Là je parle chez les électeurs et dans les sondages Eurobaromètre on le voit bien. Et maintenant, les partis qu'on appelait avant et qui le sont toujours, eurosceptiques voire europhobes, ne disent plus, pour la plupart d'entre eux, ne veulent plus sortir ni de l'UE ni même de l'euro. Donc effectivement, il y a bien une envie d'Europe, simplement il y a deux projets européens. Une Europe illibérale, d'une part, contre une Europe pluraliste, une Europe refermée sur elle-même, contre une Europe ouverte sur le reste du monde.
Yael ?
Oui, il y a un effet yo-yo parfois dans les votes aux européennes. C'est une élection particulière, intermédiaire, à un tour, vous le disiez, on peut choisir aussi en fonction de son cœur. Souvenez-vous de ELV il y a 10 ans, Daniel Cohn-Bendit,
16.
Score fleuve, ex aequo quasiment avec le Parti Socialiste, et puis 3 ans après la présidentielle, disparition quasi totale, Eva Joly s'effondre dans cette élection-là. Mais là, on est rentré dans autre chose. C'est une préoccupation, on le voit, européenne, qui a gagné d'autres pays. L'Allemagne, évidemment, où le score-là est vraiment record, au-dessus de 20%. Il y a quelque chose. Et une génération à venir, qui ne vote pas encore d'ailleurs, mais qui est dans la rue, et qui votera aussi dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est celle-là également qui se sont conscientisées, comme on dit, par cette préoccupation-là, et qui votera peut-être plus durablement sur les Verts.
Sylvain Kahn, juste pour conclure là-dessus, est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose de différent à cette élection-là par rapport à celle des 5 dernières années, par exemple. Jean-Yves Camus, pardon, je vous ai appelé Sylvain Kahn. en même temps que vous regardez.
Oui, il s'est incontestablement passé. Enfin, quand il y a 10 points de différentiel dans la participation et que la tendance existe un petit peu partout
bien
en
sûr,
Europe,
ça dit des
il
choses,
se passe hein, incontestablement
sûr.
Quelque chose. Et c'est peut-être précisément parce que les citoyens comprennent que l'Europe n'est pas tant que ça sans influence sur leur vie quotidienne. Parce qu'on peut pas, d'un côté, entendre perpétuellement qu'il faut sortir de l'Europe parce qu'elle a des conséquences néfastes sur votre vie quotidienne, et de l'autre, ne pas avoir au final des gens qui disent « Mais oui, finalement, c'est vrai, il y a peut-être quand même des choses qui influent sur les choses très basiques de ma vie. »
Et au fond, c'est peut-être ça la bonne nouvelle de ce scrutin. Il y a une dernière question, celle de Hugues, on n'a pas le temps de le prendre, mais je vais le prendre dans ma voix, Sylvain Kahn, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on peut déduire aujourd'hui de l'évolution de l'opinion britannique par rapport au Brexit ?
Ah ben justement, c'est comme un, comment dire, c'est comme un laboratoire à ciel ouvert. Les Britanniques, les partis qu'on va appeler traditionnels, c'était quand même le pays du bipartisme par excellence. Donc les travaillistes et les conservateurs, chacun dans leur genre, s'effondrent. Les conservateurs encore plus que les travaillistes. Et ce sont deux partis divisés et sur le Brexit et sur la question européenne. Inversement, le parti qui est clairement anti-européen pour le Brexit et pour un retour à un âge d'or mythique, le parti de Nigel Farage, lui, il monte à 32%. Et puis les partis qui sont clairement pour l'Europe, le Lib Dem et les Verts, à eux deux, ils font près de 30%.
Et ben on en parlera demain, tiens, figurez-vous, des Britanniques. Merci beaucoup, merci de votre participation à tous et portez-vous bien.